bienvenue dans Total Tracks, le podcast qui dépote sur la musique de film. Prenez votre place, bonjour à tous les amis et bonjour Rafik.
Bonjour David.
Encore une fois, j'inverse. Bonjour professeur Desbrosses.
Bonjour monsieur David.
Voilà, je suis en forme, je suis à fond et je suis content parce que j'ai pas eu trop à me déplacer pour vous voir aujourd'hui. C'est vous qui êtes venus à moi.
Oui, parce qu'aujourd'hui on enregistre à
Marny-les-Compiègne, dans l'Oise. Nous sommes au nord de Paris. Il fait très froid, il y a des congères et vous avez bravé le train, le périphérique, tout pour venir jusque-là.
Voilà, on est épuisé normalement après les épisodes. Là, on l'est déjà avant.
Voilà, c'est ça. C'est dur la vie.
On n'est pas du tout dans notre élément, effectivement.
Mais je suis très heureux de vous accueillir.
C'est comme si on était arrivé sur une planète inconnue.
Exactement. Moi, je suis très heureux de vous accueillir, mais on s'est vu il n'y a pas longtemps, hors émission, puisqu'on s'est vu au concert d'Halloween qui a eu lieu il y a quelques jours, n'est-ce pas, professeur ?
Absolument.
Non seulement c'était fort sympathique, mais en plus, nous avons rencontré énormément d'êtres de lumière que nous saluons, car cette émission leur est dédiée.
Il y en avait beaucoup, et ça a fait vraiment beaucoup de plaisir de les voir. Après, je regrette vraiment de ne pas avoir plus le temps de pouvoir échanger avec chacun. Il y en a que je n'ai que croisé, il y en a même que je n'ai pas vu, en fait, et qui étaient là.
Il y en a qui n'osent pas te parler, tu sais, parce que tu impressionnes.
Je ne sais pas ça.
Je te le dis. Il y en a qui sont du mal. C'est le professeur Desbrosses. Oh, j'ose pas lui parler. Rafik Djoumi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est grand.
Non, mais c'était sympa de voir tout le monde. Après, ça n'est pas la même chose.
Ah bah oui.
Qu'un apéro Total Track, c'était un peu la folie cette soirée. On a passé notre temps à courir, donc.
Mais c'était la folie parce que c'était aux Folies Bergères.
En plus de ça. Et puis moi, j'avoue qu'après, on devait aller boire un pot. Moi, je suis allé me coucher parce que j'étais absolument épuisé.
Bah oui, parce que contrairement à Rafik et à moi-même, nous n'avons pas travaillé sur ce concert. Alors que toi, tu faisais partie de l'organisation.
Voilà, tout à fait.
Donc c'était du travail en plus.
Tout à fait, c'est du travail en plus. Après, bon, je suis pas mécontent du résultat.
On fera mieux la prochaine fois.
On va faire nettement mieux encore, parce que c'est bien d'avoir toujours des pistes d'amélioration. Il faut jamais être totalement satisfait, sinon c'est pas la peine de continuer.
Et donc on remercie évidemment Panique Cinéma, toute l'équipe, Yann et compagnie qu'on connaît et qui sont quand même à la base de ce projet, faut l'avouer.
Oui, clairement, il y avait vraiment une ambition de faire quelque chose avec des morceaux un peu inhabituels qu'on peut pas entendre ailleurs, et à ce titre-là, c'est vraiment réussi, je pense.
C'est très très bien. Super, voilà, donc merci aux êtres de lumière de nous avoir rencontrés et nous sommes très très heureux et donc nous les saluons.
De nous avoir doré la pilule pendant cette soirée parce
c'est
que
vrai.
C'était quand même très agréable effectivement d'être accosté aussi doctement et gentiment. Si vous voulez faire partie de cette communauté lumineuse, il y a deux adresses à retenir qui sont tipeee.com et patreon.com, mot-clé Total Tracks, dans lequel vous pouvez devenir très simplement un contributeur de cette émission, producteur de cette émission.
Exactement, vous nous aidez à exister et à continuer vaillamment toutes les semaines à enregistrer des épisodes.
Nous faisons cette émission pour vous, nous la faisons grâce à vous.
Alors, on va continuer.
Et on va terminer cette fois-ci.
Et on va terminer cette fois-là avec Michael Kamen. Et on va commencer par se dire que le petit oiseau va sortir.
J'ai des images, mais c'est pas exactement Total Tracks.
Le petit oiseau va sortir, Rafik.
Le film dont on va parler, je l'ai vu qu'en VO, donc il va falloir que tu m'aides, David.
Mais parce que c'est réalisé par un monsieur qui s'appelle Brad Bird.
Ah, d'accord.
Et le petit oiseau est sorti. Vous appréciez mon humour?
Non,
quand
parce qu'en fait, le film dont on va parler, c'est Le Géant de Fer de Brad Bird, effectivement.
Voilà.
Mais il se trouve qu'il y a dans le film une séquence où un personnage ouvre sa braguette et en fait sortir un écureuil. Donc du coup, je cherchais un peu.
Ah oui,
la
non,
blague.
J'étais pas parti aussi loin. Moi, j'étais resté sur le nom du réalisateur que j'ai sauvagement traduit en français. Alors,
oui, parce que dans la tête de David, tout est en VF.
Oui.
Et donc, Brad Bird s'appelle Gérard Loiseau.
Gérard Loiseau. Donc, bon, The Iron Giant, ça, faut avouer quand même que c'est pas un film anodin, hein, n'est-ce pas, Rafik Djoumi ?
Oui, aujourd'hui, c'est pas un film anodin, parce qu'à l'époque où il sort, hélas, c'est un film totalement anodin.
Je me permets de rectifier, pour nous, à l'époque,
pour nous,
ça n'était pas anodin.
Non, on l'attendait. On l'attendait
c'est juste
beaucoup.
C'est juste qu'on n'était pas beaucoup à l'attendre et
c'est
pas
ça.
Beaucoup à l'avoir vu en salle.
On est bien d'accord. Mais c'est quand même un film qui était complètement sous le radar, pour une raison, hélas, qui n'est pas due au film lui-même. C'est une production de la branche animation de la Warner, qui dans les années 90 s'est compromise sur des productions particulièrement compliquées qu'on préfère oublier, hein, pour ne pas citer Excalibur, l'épée magique, ou des Space Jam de triste mémoire. En fait, voilà, dans les années 90, avec le carton des productions Disney, auxquelles d'ailleurs on a consacré deux épisodes de Total Tracks sur le renouveau Disney, en fait, toutes les majors hollywoodiennes se sont évidemment converties à l'animation 2D. La Fox s'est chopée Don Bluth, voilà,
ouais,
qui leur a fait des Anastasia et des choses comme ça. Et un certain Titan APT, alias Titan AE, qui a été un énorme échec et qui a aussi mis bien à mal la branche animation de la Fox.
Et la carrière de Don Bluth.
Et la carrière de Don Bluth par la même occasion. Et donc, chez Warner, pareil, il y avait tout un tas de projets en cours, dont ce Iron Giant, qui avait démarré, en fait, très tôt, puisque au départ, c'était assez c'est curieusement un des musiciens de The Who, Pete Townshend, qui avait récupéré les droits d'adaptation du livre de Ted Hughes pour en faire un album concept.
Ça aurait pu être pas mal.
Oui, tout à fait.
Alors, par Pete Townshend, en plus, ça aurait pu être bien. Clairement. Parce qu'il a fait des albums concept en solo qui sont très très bien. Donc,
Lorsque le projet est tombé dans l'escarcelle de Warner, il a été évidemment question d'en faire un des projets de cette branche Warner Animation, qui déjà à l'époque souffrait pas mal financièrement. Et c'est d'ailleurs à Don Bluth qu'on a proposé au départ le projet et qui a décliné. Il était déjà un petit peu fatigué, le père Don. Brad Bird, de son côté, je vais essayer de le faire vite, mais bon, parce qu'il a déjà une longue carrière, même si c'est une carrière dans l'ombre, il a été formé dans les mêmes classes que beaucoup de gens qui ont déjà, à l'époque, explosé sur le monde de l'animation. Il fait partie de la fameuse classe de la California Institute of the Arts, dans laquelle on trouvait John Lasseter, Tim Burton et bien d'autres. Mais c'est un homme de l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il a été absolument essentiel dans la constitution de ce qui allait devenir la saga des Simpsons. Voilà, il était...
Dans l'équipe de base.
Dans l'équipe de base, même s'il n'est pas officiellement réalisateur, il fait partie de l'équipe créative qui va donner son identité visuelle à la série. Il a fait l'épisode pilote de Family Dog que Tim Burton va reprendre ensuite pour en faire pareillement une série.
Oui, qui était un épisode
de Amazing Stories.
De Amazing Stories.
Exactement.
Qui est un des meilleurs épisodes
J'adore.
De toute la série.
C'est dans la saison 2, c'est l'épisode 16, si vous voulez le voir.
Il y a beaucoup de Brad Bird donc dans pas mal de ces séries qu'on a pu voir à la télévision. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Brad Bird dans Bart Simpson tout court, puisque Brad Bird est quelqu'un d'assez, on va dire, vindicatif et coléreux.
En tout cas, c'est un type qui a du talent et c'est un type qui a une patte. On reconnaît son style.
Oui, un style qui va devenir de plus en plus marqué, de plus en plus fort au fil des années.
Mais,
après.
Mais qui finalement, je trouve que dans Le Géant de Fer, son style, ça s'agit un petit peu. Il est moins extrême que ce qu'il fait dans un Family Dog.
Oui, parce que le sujet appelle aussi une certaine approche un peu plus posée, disons.
Même si graphiquement, c'est vraiment magnifique.
C'est un film absolument magnifique, mais donc pour en revenir sur la question pour laquelle il est resté sous le radar, c'est qu'en fait, pendant la production du film, il a été décidé que la branche animation Warner allait fermer. Basiquement, cette production s'est faite alors que tout le monde se cassait dans tout le... Enfin, je veux dire, il n'y avait plus personne quoi, dans les locaux, alors que c'est un film extrêmement ambitieux. Ils l'ont terminé sur les genoux, évidemment.
Voilà, ils l'ont fait, comme on dit, under budget, c'est-à-dire avec beaucoup moins de budget que nécessaire, avec une équipe beaucoup plus réduite que ce qui était appelé pour un film de cette ampleur-là. Et c'est aussi probablement pour ça que le film est ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu la paix. C'est la seule conséquence positive finalement de cette aventure, c'est qu'on les laissait bosser en fait.
Ils ont fait ce qu'ils voulaient.
Voilà, il n'y a pas eu de retouche de dernière minute, de projection test catastrophique ou ce genre de truc-là, vu qu'il n'y en a pas eu du tout, même vu que le film a été littéralement bazardé, puisqu'il n'y avait pas non plus de département pour en assurer la promotion. Mais en gros, il est sorti comme si, je sais pas moi, pratiquement comme une reprise d'un vieux film de la Warner, quoi. Je bossais dans la presse, on nous proposait pas le truc. Les attachés de presse n'appelaient pas pour dire vous devriez venir voir ce film. Ça va vous plaire, etc. Quoi. Tout le monde avait oublié, basiquement, c'est un film mort-né, en fait, le Géant de Fer.
Mais alors, Rafik, justement, si c'est un film qui a été très peu vu, en tout cas à l'époque, certainement, une bonne partie de nos auditeurs ne l'ont pas vu. Ça parle de quoi, Iron Giant ?
Iron Giant raconte l'histoire dans les années 1957.
C'est la date de lancement
de Sputnik. Voilà. On est donc effectivement au pic de la parano. C'est dans ce contexte qu'on suit un petit gamin qui s'appelle Hogarth, qui vit tout seul avec sa mère. Et Hogarth va, en gros, un peu sur le modèle du E.T. de Spielberg, être visité,
oui.
visité par, non pas un petit alien de quelques centimètres, mais littéralement par un robot géant, le fameux géant de fer. Les deux personnages vont s'apprivoiser et ce gamin va commencer à développer une amitié durable avec cette machine de guerre, puisque c'est quand même une machine de guerre.
C'est une machine de guerre. C'est ça, c'est un robot guerrier extrêmement dangereux, extrêmement destructeur, mais qui a été abîmé lors de sa chute sur Terre et qui donc a perdu la mémoire.
Il n'est pas terrien d'origine. Hein. C'est un extraterrestre.
Et donc, il a de temps en temps, d'ailleurs, au fil du film, des visions de ce qu'il était avant. Voilà, on va pas vous révéler la fin. Il n'y en a pas besoin vraiment dans ce qu'on va vous raconter. On a tellement d'autres choses à dire sur le film de toute façon.
C'était déjà dans le bouquin. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Pete Townshend voulait l'adapter. C'est que c'est un film qui raconte, en fait, tout ce qu'il y avait sous la surface durant ces années-là. Fin des années 50, début des années 60, il y a un changement climatique dans la culture américaine où on commence à sentir poindre ce qui va devenir les beatniks, qui vont mener au hippie. La contestation de la fin des 60s, etc. Et tout ça est dans le film, en fait, suggéré. Le beatnik par un jeune adulte avec lequel Hogarth va devenir ami, puisqu'en fait, son robot se nourrissant de métal, il a besoin d'aller lui faire bouffer des carcasses de bagnoles.
Il est en charge de la casse locale. Mmh, c'est une casse de voiture.
C'est ça, exactement.
Et enfin, un autre personnage intéressant, c'est une sorte d'agent du FBI, voilà, en tout cas un agent gouvernemental, qui n'est pas du tout gentil, mais surtout qui fait son travail correctement.
Son taf
il y a
de
un
parano.
Objet non identifié qui a été repéré par l'armée. Après, qui se serait écrasé dans la région, donc il vient enquêter.
Oui, et ça, c'est forcément russe.
Et à ses yeux, c'est forcément russe.
Tout ce petit monde-là est mis en voie par un très bon casting.
Oui, il y a du monde, oui.
Puisqu'il y a Jennifer Aniston qui fait la maman de Hogarth, il y a Rick Connick Jr. qui fait son copain de la casse, Christopher McDonald qui fait le mec du FBI, et surtout, il y avait une très très bonne idée pour le robot qui apprend petit à petit à parler dans ses interactions avec le gamin, c'est Vin Diesel.
Qui a appris aussi à parler pendant le film, je crois.
Exactement, et il le fait avec un talent tout à fait convaincant.
Non, mais on comprend pourquoi ils lui ont fait parler Groot chez Marvel, il avait déjà une bonne expérience.
Non, mais totalement. Groot, c'était en référence au géant de fer.
Au géant de fer, oui.
Sachant que Vin Diesel, à l'époque, est loin d'être
une vedette. Hein, pas encore.
Pitch Black n'est pas encore sorti, donc il n'est pas du tout installé. Mais par contre, il a effectivement la voix qu'il faut. On pourrait passer beaucoup de temps sur ce film parce que c'est, à mes yeux, du moins, c'est le dernier grand dessin animé du XXe siècle, au sens où j'ai jamais rien vu de mieux depuis. C'est bourré d'idées visuelles.
On est d'accord.
Esthétiquement, c'est une pure merveille.
Juste pour tempérer un peu ce que dit Rafik, je tempère pas du tout en fait parce que le film est absolument sublime, magique, à tout point de vue. C'est une pure merveille. Si vous l'avez pas vu, voyez-le parce que si vous mourrez avant de l'avoir vu, vous irez en enfer.
Avant de continuer de parler du géant de fer, on pourrait peut-être écouter un morceau.
Ouais, écouter un morceau qui en plus sur lequel on peut voir justement comment Michael Kamen travaille avec les multiples thèmes du film, puisque l'ouverture du film nous démarre sur le fameux Spoutnik. En fait, on a carrément le bruit de Spoutnik sur le logo Warner et on rentre directement dans cette ambiance paranoïaque et en même temps mêlée de fascination pour l'espace dans les premières scènes qui en fait parle vraiment d'un truc qui est au cœur de ce bouleversement culturel américain qui est qu'à l'époque où les adultes flippaient de ce qui se passait dans le ciel au-dessus de leur tête, ils faisaient pas attention au fait que leurs gamins étaient en train de délirer dessus et ces gamins c'est ceux qui vont devenir justement les futurs Lucas, Spielberg et compagnie. Joey Dante et compagnie.
Tout à fait. Allez, c'est parti pour un premier morceau qui s'appelle comment, professeur ?
Alors, c'est un morceau qui s'appelle The Eye of the Storm. C'est une scène qui est la première séquence du film où on voit le Spoutnik, puis l'arrivée du robot dans l'océan.
Et dans une séquence qui fait ouvertement référence au Godzilla originel, puisque ce sont des pêcheurs, en fait, qui vont être les premiers à être en contact avec cette créature.
Oui, il y a un côté très Pacific Rim, en fait, dans la séquence. Ouais.
c'est beau, ça pète. C'est du Kamen très et, adulte.
Et c'est très adapté. C'est vraiment composé à l'image. On rappelle, d'ailleurs, on le fait pas assez souvent dans cette émission, on passe souvent des morceaux assez chouettes, mais c'est bien d'aller ensuite revoir les films pour voir comment ces morceaux fonctionnent. Là, vous avez entendu au début tout un petit jeu de flûte qui, en fait, imite le son du Spoutnik avant que ne déboulent les trombones et les violons qui accompagnent les vagues de la tempête dans laquelle le géant va enfin se révéler, etc. Enfin, c'est joli, mais c'est aussi vraiment de la musique de film qui accompagne narrativement et souligne ce qu'on a à l'image.
Voilà, et on vous disait dans l'épisode précédent que d'une part, Kamen ne prenait quasiment jamais totalement au sérieux les films sur lesquels il travaillait, sauf exception, celui-là en est une. Et surtout, il adorait le film, il adorait le projet, il adorait bosser avec Brad Bird, ça s'est très bien passé entre eux, alors que Brad Bird n'est pas quelqu'un de facile. Hein. Et il est très probable que Michael Kamen serait resté le compositeur de Brad Bird s'il n'était pas mort. Malheureusement, c'est le seul film qu'il fera avec Brad Bird, puisque le suivant et tout ce qui suivra après sera mis en musique par Michael Giacchino.
Exactement.
C'est pas mal. J'aurais bien voulu voir un Ratatouille par Michael Kamen, par exemple.
Pour rappeler, pour les gens qui ne connaissent pas forcément Brad Bird, c'est le réalisateur ensuite des Indestructibles, de Ratatouille, de Mission Impossible, Protocole Fantôme.
Ouais, en fait, il a été vraiment repêché parce que l'échec total du Géant de Fer à sa sortie, il a évidemment mis plus Bacter. Brad Bird, c'est un personnage compliqué. Hein. Le gamin Hogarth, d'ailleurs, lui ressemble beaucoup. Il est très têtu, il est un peu chieur, mais aussi en même temps extrêmement créatif, bouillonnant de créativité. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de problèmes avec l'autorité. Ça a certainement beaucoup joué dans le développement tardif de sa carrière en tant que réalisateur. Or là, le mec, on lui donne enfin un projet, et un projet quand même à sa mesure, parce que c'est quand même un film, encore une fois, on insiste dessus, qui se donne les moyens, enfin visuellement, enfin c'est un truc en cinémascope, enfin genre les gens de fer, tu vois ça en salle, tu le vois quoi.
Et en plus, c'est vraiment un crossover entre le 20e et le 21e ouais. siècle, parce que c'est un film en animation traditionnelle avec des éléments
en 3D,
en CGI.
En CGI, puisque le géant
de fer, entre autres, et les effets spéciaux globalement à l'image sont faits en CGI.
Oui, mais ça se sent pas puisque c'est du cel shading.
C'est du cel shading, tout à fait. Le fait est que donc le film va se planter, mais c'est indépendant de sa qualité. Encore une fois, je pense que tous les gens qui avaient le film entre les mains à l'époque savaient que c'était un bon film. Il se trouve que les conditions ont fait que
ça arrive.
Il avait rien pour lui.
Il y a eu d'autres chefs-d'œuvre qui ont été foulés du pied et par la critique ou par sa sortie.
Et là, ça n'a pas été le cas puisque les critiques n'étaient pas là.
Mais ceux qui l'ont vu ont bien aimé le film. Hein.
Moi, je l'ai pas vu en salle, le Géant de Fer. Je l'ai découvert en vidéo, quoi. Et j'étais dans la presse à l'époque, si tu veux. Mais genre, quand je dis sous le radar, c'est sous le radar.
Ouais, c'est sous le radar. Bon, bref, on l'a bien dit.
Ouais. Il était plus Bacter, et en fait, il pensait que sa carrière était finie. Il était prêt à jeter l'éponge, et c'est les mecs de Pixar qui l'ont convaincu de les rejoindre. Ils voulaient pas. Ils disaient, mais je vais vous planter aussi.
Et vous planter votre film.
Et faut voir le making of des Indestructibles parce que vous avez un Brad Bird qui est convaincu que son film à lui va détruire le studio Pixar à tout jamais, quoi.
Et ça ne sera pas le cas.
On a failli passer à côté d'une grande carrière et Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Et Dieu merci aussi, au fil des ans, l'aura du Géant de Fer n'a fait qu'augmenter. Tu disais qu'il y avait plein de...
Alors, il y a des belles éditions. Alors, j'ai vérifié, il n'y a pas de 4K pour l'instant. Mais
sache que ces éditions n'existent que parce qu'il y a la demande du public. Ouais. Parce qu'en fait, Warner, au départ, ils n'étaient même pas au courant qu'ils avaient un chef-d'œuvre entre les mains.
Mais comme je crois que depuis, Warner s'en est rendu compte. Déjà, je crois que le Géant de Fer fait partie des classiques qui sont au catalogue Warner Cinéma, qui est pourtant un catalogue assez récent. Mais on peut demander à obtenir le film pour sa salle de cinéma, ce qui prouve quand même qu'ils se sont rendus compte depuis qu'ils avaient un classique entre les mains. Et ensuite, donc, il y a eu quelques éditions DVD, Blu-ray, mais il n'y a pas encore d'Ultra HD. Mais pareil, Warner est un des rares studios qui continue, contre vents et marées, à faire des belles éditions physiques. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un Géant de Fer qui sorte rapidement en Ultra HD.
Alors, une des raisons pour lesquelles le film est aussi devenu ce qu'il est, c'est que c'est un film qui est chargé, très chargé d'émotions, ce qui n'est pas forcément commun, quoi qu'on en dise, dans le monde du dessin animé, même si Pixar nous habituait régulièrement à nous faire lâcher quelques larmes. À l'époque du Géant de Fer, c'était assez inattendu de se retrouver à chialer comme une madeleine à la fin d'un film quand on avait plus de 10 ans. Quoi. Et ça, c'est déjà dû au récit originel, puisqu'il faut savoir que le bouquin a été écrit par Ted Hughes au départ pour consoler son fils de la mort de sa mère. Donc c'est déjà un film dans lequel la question du deuil, elle est présente. J'en ai discuté d'ailleurs avec Juan Antonio Bayona à l'époque l'époque de la sortie de Quelques minutes après minuit, qui est un film donc sur le deuil.
Sur leur deuil.
Je lui demandais pourquoi est-ce que on a aussi souvent des gamins qui deviennent amis avec des créatures aussi étranges. On parlait de E.T., on parlait de ça. Et il me disait parce que c'est ça. Si vous regardez de près, ce ne sont que des films qui parlent du deuil. E.T., c'est littéralement un deuil en fait de tout le film, quoi. Elliot qui apprend à devenir un adulte, à couper le cordon ombilical d'une certaine façon. Et ça se termine par une séparation définitive.
Absolument déchirante, évidemment.
Absolument déchirante. Et donc le géant de fer, voilà, se termine également par une séparation absolument déchirante, avec donc un géant qui, grâce au petit gamin Hogarth, a fini par comprendre qui il était, quelle était son intégrité, qu'en fait il pouvait décider d'être cette machine de guerre destructrice ou autre chose. Et en l'occurrence, l'autre chose que Hogarth lui a appris, c'est à être Superman, puisque donc le gamin évidemment est un fan de comic book, et donc le géant se convainc qu'il peut choisir d'être Superman, et ça donne une scène particulièrement éprouvante et émouvante.
Dont on va écouter la musique.
Ah oui, ça serait bien.
Volontiers, oui.
Voilà, un morceau qui s'appelle No Following.
No Following, parce que donc le robot demande à l'enfant de ne pas le suivre. Il va faire quelque chose.
Eh bien, on écoute ça tout de suite. Thank you.
Alors, comment Michael Kamen s'est retrouvé sur Iron Giant avec Brad Bird? C'est simplement parce que Brad Bird était fan de Brazil et du Baron de Munchausen, ce qui est pas très étonnant finalement quand on connaît le personnage. Donc ça s'est super bien passé entre les deux. La musique temporaire initiale sur le film, c'était une collection de pièces de Bernard Herrmann des années 50-60, en particulier Le jour où la Terre s'arrêta, mais il n'y avait pas que ça.
Ouais, ça devait bien coller.
Qui est un truc qui a beaucoup fait flipper Kamen quand il a vu le premier montage avec la musique temporaire. Et Michael Kamen lui-même était à fond pour être sur le projet parce qu'il connaissait le bouquin et que dans les années 70, il avait même envisagé d'en faire un ballet à partir de l'histoire du géant de fer. Donc c'est pas un truc qui date d'hier non plus pour lui. C'est quelque chose qui est resté dans l'arrière de son esprit pendant des années. Donc quand il a eu l'opportunité de faire le film, forcément il a foncé. C'est aussi son premier film d'animation. Il n'en avait jamais fait avant et il est bien conscient que c'est peut-être plus important encore d'avoir une bonne musique sur ce genre de film parce que c'est ça qui donne vie au personnage et qu'avant qu'il y ait la musique, il manque un petit quelque chose. C'est pour ça que sur les films d'animation, globalement, il y a du score quasiment non-stop et ça va être le cas aussi pour Le Géant de Fer. Il a écrit deux thèmes pour le film, un pour Garth, le gamin, et l'autre pour Le Géant de Fer, deux thèmes qui seront réunis à la fin du film de manière assez logique, mais enfin, il faut quand même le faire, quoi. Et surtout, il avait le sentiment qu'il y avait un besoin de retrouver un son qui n'était plus présent au cinéma à l'époque, qui était un son des années 50-60. Et pour ça, il est allé chercher un orchestre en Europe, qui est l'Orchestre Philharmonique de Tchécoslovaquie, qui n'avait jamais joué de musique de film. Ils ne faisaient pas de session pour les films, ça a été leur première fois où ils ont dû enregistrer autre chose que du classique en fait. Et ça a été enregistré selon une méthode qui n'est pas du tout utilisée pour le coup au cinéma, puisqu'habituellement, quand un orchestre enregistre un score de film, ils ont un casque avec un clic qui leur donne le rythme, etc., pour que tout soit toujours bien matché avec ce qu'il y a à l'image. Un truc qui est préparé à l'avance et qui est calé exactement sur ce qui doit se passer à l'écran en même temps que la musique. Et là, non, ils ont enregistré sans clic, juste dirigé par Kamen, qui a donc littéralement plaqué la musique sur le film à l'instinct. Et Brad Bird était absolument ravi parce que ça marche très très bien sur le projet. Donc le résultat, il est quand même assez magique. Et donc la musique a quelque part été enregistrée un petit peu comme si c'était une musique classique, avec les guillemets.
Rafik, on a à peu près tout dit sur le film, je pense.
Bah, on pourrait rester longtemps, mais on va pas le faire.
Je pense que les mots chef et d'œuvre suffisent à désigner le film. Après, il est aux gens d'aller vérifier sur pièce.
Ouais, on attend vos retours. Hein. Vous nous ferez quelques commentaires si vous avez découvert Iron Giant grâce à cet épisode de Total Tracks.
Voilà, c'est vrai qu'on va peut-être pas suffisamment insister là-dessus, mais voyez ce putain de film!
Même si vous n'aimez pas les films d'animation, ce qui est chouette avec Le Géant de Fer, c'est que c'est un film quand même relativement adulte dans la façon de traiter les personnages, l'intrigue, etc., etc.
Oui, puis il y a aussi énormément de travail sur le design des personnages.
Ça a beau être le film qui a enterré le studio d'animation Warner, c'est un film qui est léché, qui est bien fait, il n'y a pas de faute de goût.
C'est le meilleur dessin animé Warner long métrage jamais produit, quoi. Ça c'est sûr.
L'histoire de Kaamelott, là, c'était quand même pas mal, hein.
Bon, il faut avouer que là, on a passé 30 minutes sur Le Géant de Fer, ce qui me paraissait indispensable, mais surtout, on arrive à la fin des années 90. On va rentrer dans l'ère 2000, qui va être une période un peu sombre, hein, puisque c'est celle qui va avoir le décès de Michael Kamen au début des années 2000. Donc
Il
le sait pas encore, mais il lui reste plus beaucoup de films à faire, malheureusement.
Non, mais par contre, il a toujours la même énergie, et du coup, il est évidemment à fond sur le projet suivant.
Donc on arrive dans les années 2000 avec un film quand même très important pour les amateurs de comics, puisque c'est la première grosse adaptation de personnages de super-héros, quoi.
Oui, en fait...
À part Batman.
En réalité, il y avait eu d'énormes adaptations auparavant.
Superman
en 78 et le Batman de Tim Burton en 1989. Le Superman de Richard Donner, ça restait une anomalie, c'est-à-dire personne ne comprenait comment Richard Donner avait réussi à faire ça à l'époque.
Lui-même, je pense, qu'il se pose encore la question.
Parce qu'on s'était bouffé des Supergirl, etc. par la suite, qui étaient vraiment qui nous ramenait à la version la plus infantilisante de l'adaptation. Ensuite, donc, on a eu ce choix de partir complètement dans d'autres directions avec le Batman de Tim Burton, qui était en gros donnant carte blanche à un réalisateur pour qu'il se réapproprie complètement un personnage, mais c'était aussi s'aliéner une bonne partie de la fanbase. Moi, j'adore Batman Returns, par exemple. Hein.
Ça pourrait être autre chose, ça pourrait ne pas être Batman.
Mais c'est d'abord et avant tout un film de Tim Burton, mais je me souviens que Bernard Lehoux, qui était un gros fan de comic book, haïssait de tout son être Batman Returns, parce que pour lui c'était pas Batman, et en réalité il avait raison, ça n'était pas Batman, mais c'était le choix qui avait été fait par la Warner de, justement, comme on sait pas comment adapter ces trucs là bah autant filer des cartes blanches.
Ils ont très vite changé leur fusil d'épaule, puisqu'après ils ont confié ça à Joel Schumacher, et c'est quand même un choix magistral, voilà.
Le fait est que du coup le monde du comic book était un peu dans les limbes, parce que soit c'était des productions ridicules, cheap, voire pour la télévision comme on en avait eu au début des années 80, soit c'était des projets très ambitieux qui ne voyaient jamais le jour, puisque donc pendant dans les années 90, on avait notamment le Spider-Man de James Cameron qui parvenait pas à se faire, etc.
Le Superman de Tim Burton qui s'est pas fait non plus.
Il en était de même pour X-Men, hein, puisqu'il faut rappeler que X-Men avait été confié également aux bons soins de James Cameron par la Fox, puisque basiquement Cameron est un petit peu le geek officiel du studio Fox dans ces années-là, et Cameron avait un peu bossé là-dessus en confiant la réalisation à Catherine Bigelow. C'était à l'époque où ils étaient encore ensemble. Ça avait avancé dans cette direction. Il y avait eu un projet dans lequel Angela Bassett devait jouer le rôle de Storm, tout ça réalisé par Bigelow. Ça, c'est pas fait, mais du coup, c'est la raison pour laquelle Angela Bassett se retrouve dans Strange Days, dans un rôle assez important, avec un look qui, à mon avis, était le reste, justement, du personnage de Storm qu'elle devait jouer. Et ce qui s'est passé dans les années 90, c'est qu'il y avait eu cette série animée qui avait été développée autour des X-Men, qui avait plutôt bien marché, et qui était supervisée par un mec qui s'appelle Avi Arad, et du coup, le studio a confié à Avi Arad la charge, on va dire, de développer des films. Mais celle qui, à mon avis, va vraiment débloquer la situation, c'est Lauren Shuler Donner, qui est donc la femme de Richard Donner, comme quoi dans la famille Donner, on sait quoi faire des super-héros. C'est elle qui va commencer à aller en quête de scénaristes de prestige, et non pas de scénaristes spécialisés, parce qu'il y a cette idée, faire des films de super-héros, c'est, il faut confier ça à des gens qui sont là-dedans. T'as envie de dire, non, vous trouvez un cinéaste, un scénariste, des acteurs, enfin, je veux dire, c'est des films avant tout. Donc la Lauren Shuler Donner va vraiment aller dans cette direction, elle va produire ça comme si c'était des films normaux. Du coup, il va y avoir plein de gens qui, alors pas forcément les meilleurs à mon humble avis, qui vont être dépêchés. Brett Ratner, par exemple, qui était déjà sur les rangs. On a des Robert Rodriguez aussi. En fait, oui, le développement s'est longtemps fait avec Andrew Kevin Walker, que je ne considère pas personnellement comme un bon scénariste, mais qui était un scénariste important sur la place hollywoodienne, puisque à l'époque, il est auréolé du succès délirant, ne serait-ce que critique de Seven, film qui, donc, je le rappelle, est un pur chef-d'œuvre, mais j'insiste là-dessus, j'aime pas le script. Seven est pour moi un des rares exemples de film absolument admirable qui est fait sur un mauvais script. Il a aussi fait le script de 8 mm qui avait été pas mal remarqué. Donc, mais il est associé à un côté entre guillemets adulte et sérieux. Donc le fait que ce soit cette plume qui développe le projet X-Men, déjà d'emblée assure le sérieux de l'entreprise. On n'est pas là pour faire du dessin animé pour enfants, quoi.
Et finalement, c'est David Ayer qui signe le scénario.
Au bout du compte, mais il va quand même garder une partie des choses qui ont été posées par Andrew Kevin Walker.
Avec Christopher McQuarrie, mais qui n'est pas crédité.
Tout à fait, mais ça, Christopher McQuarrie, il arrive après. Ce qui va se passer, donc, c'est qu'au lendemain du succès de Usual Suspects, il y a cette idée donc, de confier le projet à son réalisateur Bryan Singer. Ça va mettre du temps à se faire, donc Singer aura quand même le temps de faire un autre film entre deux qui s'appelle Un élève doué. C'était ça, le titre français, Apt Pupil.
C'était pas mal, ça.
C'était très douteux, surtout.
Oui, oui, mais c'était... C'était adapté de Stephen King, mais c'était effectivement assez limite.
Enfin, surtout quand on connaît les problèmes qui pourraient être judiciaires et que Bryan Singer a offert ces derniers temps, revoir un élève doué à la
sous cet angle-là,
ça grince.
Voilà, par contre, il y a un élément d'un élève doué qui va rester dans le film suivant dans X-Men, qui est
c'est le comédien
principal Ian McKellen, qui va venir rejoindre une belle galerie de stars, puisqu'on a Halle Berry, Famke Janssen, Rebecca Romijn-Stamos et Anna Paquin. Par contre, il manque toujours un comédien qui est celui qui va jouer un rôle essentiel dans le film, qui est Wolverine.
Et d'autant plus essentiel que c'est censé être le référent du spectateur, puisque c'est à travers un peu les yeux de Wolverine qu'on découvre l'organisation du professeur Xavier.
C'est ça. Et ils vont proposer le rôle à Russell Crowe, qui va refuser et qui va recommander à sa place son ami totalement inconnu du grand public qui s'appelle Hugh Jackman. Et ça va être le début de la carrière de Jackman qui va être absolument parfait dans le rôle.
Russell Crowe qui depuis est surnommé Russell Gros parce que franchement, il a doublé le volume. J'imagine Wolverine, mais aujourd'hui, il serait un peu engoncé dans son costume. Alors que Hugh Jackman,
c'est pas faux.
Est resté super dynamique, même 20 ans après.
Oui, il prend soin de lui.
Et puis, on n'a pas parlé de Patrick Stewart dans le rôle du professeur.
Je l'ai pas mentionné, effectivement. C'est quand même un acteur qui est super. Ça devait pas être lui du tout au départ. Enfin, ils ont choisi Patrick Stewart pour le rôle du professeur X. Excellent choix. Il était déjà assez connu grâce à sa participation à Star Trek Next Generation depuis quelques années. Et par contre, il y a quelqu'un d'autre qui faisait campagne de manière très active pour avoir le rôle du professeur X, qui finalement malheureusement n'a pas été retenu par la production, qui s'appelle Michael Jackson. Et le film aurait été totalement pourri s'il l'avait donné à Michael Jackson.
Il aurait fallu le raser.
Tu l'imagines, un professeur Xavier ?
Non, pas du tout.
En tout cas, voilà, une chose est sûre, c'est que tout le monde est déterminé, enfin tout le monde, une bonne partie des gens sur ce projet sont déterminés à faire de X-Men un film modèle, c'est-à-dire justement un film qui donne le là de comment on va maintenant adapter les super-héros.
De ce point de vue-là, c'est réussi.
Exactement, mais il a fallu fallu quand même abattre quelques murs pour pouvoir imposer ça. Parce qu'encore une fois, tu parlais tout à l'heure de Joel Schumacher. On était à l'époque avec Batman et Robin, quoi, qui était une espèce de carnaval de Rio absolument aberrant, etc. Et au même moment, t'as Tom DeSanto, le producteur, et Bryan Singer qui sont en train de travailler sur une version de X-Men dans laquelle explicitement, ils le disent dans leur note d'intention, le rapport entre Xavier et Magneto est le même que celui entre Martin Luther King et Malcolm X. L'idée vraiment de faire un film pour adultes, elle est marquée au fer rouge dans le projet, et donc ça va aller encore très loin. Au départ, il était question de mêler l'actualité récente au film, et notamment de faire en sorte que Magneto soit responsable du drame de Tchernobyl. Alors, ils vont pas le garder, mais par contre, de décider d'ouvrir le film sur les camps de concentration, et c'était surtout un signal lancé au public. Ça va être ce genre de film de super-héros-là. Maintenant, on arrête les conneries, c'est fini l'époque où le comic book était considéré comme un truc pour les gamins. Moi, j'ai des sentiments un peu paradoxaux par rapport à ça, parce que j'aime bien aussi cette idée de comic book pour gamins.
Non, mais seul voilà. Donner dans le premier Superman avait réussi cette prouesse.
Cet équilibre,
ouais,
en fait.
C'était vraiment très, très, très bien vu.
Et donc, ça va être le premier film véritablement de la franchise de super-héros Marvel. Il y avait eu des trucs avant, mais il y avait genre War the Duck ou des choses comme ça, mais pas grand-chose.
On dit pas de mal.
Il y avait les quatre fantastiques de Roger Corman. Il y a eu un Captain America d'Albert Pyun qui n'était pas si honteux.
Il y a eu un Spider-Man live dans les années 70 aussi, qui était bien miteux, mais il n'y avait pas eu grand-chose. Et ça a été le premier vraiment gros budget et grosse considération apportée à la production qui va mener aux, je sais pas, 50 films qu'on a eu depuis.
On ne doit pas être à 50, mais on doit être dans les 40-45, je dirais.
Ouais, enfin, il y en a beaucoup trop. Et surtout, ils ont cessé assez rapidement de faire des films de super-héros pour adultes sans pour autant faire des trucs pour enfants. Et ils ont tranché en faisant des films pour adolescents. Et c'est ce qu'ils font depuis, en fait.
Il n'y a pas eu Blade qui est sorti juste
alors,
avant.
Alors oui, mais Blade
n'était pas identifié Marvel à fond, quoi.
D'une part, et puis Blade est produit par New Line. C'est une BD moins connue. C'est un film classé R aussi.
Oui, c'est un film vraiment adulte.
Et puis c'est plus un vampire qu'un super-héros.
Voilà. En réalité, on avait failli ouvrir cette nouvelle ère des super-héros avec un autre projet qui devait sortir en 98 et qui n'a pas pu se faire à cause d'une connasse à Universal, qui était le Hellboy de Guillermo del Toro. Le film était prêt à être fait à cette époque-là. Et del Toro en a toujours voulu à cette personne d'Universal de lui avoir coupé l'herbe sous le pied et fait en sorte que Bryan Singer soit finalement, au fond, le premier à faire un film de super-héros nouvelle ère.
Alors, j'ai une question. Parce que Bryan Singer est souvent associé à son compositeur attitré
John Ottman.
John Ottman, qui a dans Usual Suspect et dans les suivants, dans d'autres films. Pourquoi le choix de Michael Kamen s'était imposé par le studio ?
En fait, c'était pas Michael Kamen, c'était pas John Ottman.
D'accord.
Le choix de Bryan Singer, c'était John Williams.
D'accord.
Et John Williams s'était intéressé, mais il a dû refuser parce qu'il n'avait pas le temps. C'était une époque où il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. En 2000, il y avait les Star Wars
De Lucas.
De la prélogie, etc. Il y avait pas mal de choses. Il y avait du Harry Potter, il y avait tout ça. Et du coup, il ne pouvait pas tout faire. Donc, il a dû lâcher X-Men. Et donc, Singer est reparti vers son compositeur et monteur favori, John Ottman. Mais Ottman était à l'époque occupé avec un film qu'il a monté, mis en musique et réalisé, qui était la suite de Urban Legends.
Chef-d'œuvre.
Qui s'appelle le Final Cut, et donc il a rendu indisponible pour travailler avec Singer sur X-Men, et du coup Singer s'est rabattu sur Michael Kamen, qui était tout à fait intéressé par le projet, qui comme d'habitude arrive en disant « Youpi, on va faire un film !»
Même si Ottman aurait sûrement fait quelque chose de bien, parce que Ottman a prouvé qu'il était capable...
Il a prouvé, ne serait-ce que sur X-Men 2, qu'il était tout à fait capable de réinventer le truc.
Et même les 4 Fantastiques, c'était lui.
C'était lui.
Le score était sympa.
Oui, oui, mais le problème qu'il y a avec les X-Men, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les 3 premiers films, parce que le 3e est mis en musique par John Powell, qui a aussi fait le boulot très proprement.
Ah bah ça.
Mais chacun en faisant ses thèmes, on n'a pas vraiment d'identité globale de la première trilogie X-Men. Après, Ottman va revenir et va donner un peu plus de sens, mais ce sera un peu tard. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit morceau?
Ça serait bien. Parce qu'on parle, on parle, mais on n'écoute pas grand-chose.
Hein. Alors, dis-nous, David, c'est quoi le morceau qu'on peut écouter?
On pourrait écouter le X-Jet.
C'est une scène de l'équipe des X-Men qui va s'envoler dans l'espèce d'avion à décollage vertical du professeur X. C'est un morceau qu'on a choisi parce qu'il présente tout simplement le thème des X-Men et que ça sonne plutôt pas mal.
Il présente le thème des X-Men, il présente également les costumes des X-Men puisqu'ils sont tous costumés à ce moment-là, avec cette fameuse blague qui, hélas, annonce beaucoup d'années pénibles pour les cinéphiles, qui est quelqu'un qui est un peu gêné par ses costumes et un autre personnage qui lui répond « T'aurais préféré quoi ? Du spandex jaune ?» Sous-entendu, on va pas être habillé comme dans la BD, quoi. Mmh. Et donc, ce côté un petit peu clin d'œil vis-à-vis des lecteurs du comic book, bah voilà, dans les années suivantes, on va s'en bouffer dans tous les coins, et ça a commencé dans cette scène. Voilà.
Mmh. Mais la musique est bien quand même, alors on l'écoute.
y a un thème qui est vraiment identifiable. Ouais. Il va aussi en faire pour un peu tous les personnages, mais ça ressemble pas du tout au Gamen qu'on connaît. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'électronique, mais c'était pas ce qu'il voulait faire au départ. C'est-à-dire que, et moi je tiens ça d'un journaliste qui avait rencontré Kamen alors qu'il bossait sur X-Men et il lui avait fait écouter ses premières maquettes. Kamen, il faisait son Superman, littéralement. C'était du full symphonique, il n'y avait pas du tout d'électronique, et c'était quelque chose d'extrêmement thématique, extrêmement emphatique. Il est même allé pratiquement jusqu'aux sessions d'enregistrement comme ça. Et Lauren Schuller-Donner a écouté les maquettes, elle a dit ça va pas du tout. C'est absolument pas ça qu'on veut. Et elle lui a fait réécrire la totalité du score.
Ah, sympa. Ah, il devait être content.
Bah, déjà, elle l'a pas viré, ce qui est déjà pas mal. Mais il a dû faire quelque chose qui était pas du tout dans ses habitudes. Comme on a entendu là, il y a de beaux restes. Il y a des moments sympas, mais le score n'est pas le truc absolument monumental qu'il avait en tête et qu'on n'entendra jamais parce que ça n'a jamais été enregistré et que ça doit être quelque part dans les archives Michael Kamen, mais que de toute façon, je pense que la sortie d'un réenregistrement de ça serait bloquée par le studio.
Alors c'est probablement dommage, mais est-ce que c'est pas logique qu'ils aient voulu s'écarter justement du côté très emphatique, très thème puissant de Superman pour essayer de faire un peu quand même, pour faire autre chose. Il y a une certaine logique pour pas copier le style Williams.
On pouvait faire un truc parfaitement adulte, tout en étant quand même globalement plus mélodique et plus orchestral et plus thématique que ce qu'on a au final. Et c'est exactement ce que Danny Elfman va faire juste après avec le premier Spider-Man de Sam Raimi.
C'est vrai.
Donc les deux sont pas antinomiques en fait. Non, c'est une autre approche de quelqu'un qui voulait une musique qui soit moins remarquable à l'image.
Bon, ben voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux ajouter sur ce score, professeur ?
Kamen n'était pas connaisseur des comics Marvel. Il n'avait pas vraiment lu les X-Men ni rien. Donc il s'est entièrement reposé sur la vision que Bryan Singer lui a transmise, qu'il avait lui, des comics qu'il connaissait bien. Et la musique qu'il a faite au final était une manière de retranscrire cette vision spécifique à un réalisateur, sans avoir lui-même de notion particulière de ce qu'il y avait dans les comics et qu'il n'y aurait peut-être pas au final dans le film. Voilà. Et c'est pas au final un mauvais film, c'est pas non plus un chef-d'œuvre.
Moi je préfère le deuxième. Moi je trouve que le deuxième me plaît plus en termes d'histoire, en termes de rythme. Et encore une fois, c'est comme c'est un film introductif aux X-Men, il y a toutes les scènes d'exposition, d'origine des personnages, etc.
Ça parle beaucoup quand même.
Et ça parle beaucoup, on est d'accord.
Ça parle beaucoup, l'action n'est pas toujours filmée de manière absolument impeccable non plus, mais il y a quand même une tentative de faire quelque chose
c'est clair, manière
adulte, et c'était quand même assez courageux à ce niveau-là.
Oui, il y a un côté graphic novel en fait. C'est-à-dire que ce que la graphic novel a fait au comic book, c'était bienvenu, c'est-à-dire maintenant on fait des trucs sérieux, etc. Et en même temps, à mon goût, hein, on y perd un petit peu de la puissance d'évocation qu'avaient les BD originelles, les comic books d'une certaine époque. Je suis plus un fan justement des Spider-Man de Sam Raimi ou des Indestructibles de Brad Bird, qui raccordent avec la puissance d'évocation et d'imagination qu'on associe naturellement quand on est gamin aux super-héros.
Ah oui, je suis d'accord avec toi, je suis beaucoup plus fan du Spider-Man de Raimi, alors qu'en comics, les X-Men étaient mon Marvel préféré pendant très très longtemps, c'était incroyable. Et on va voir après qu'avec la suite de la franchise, on en parlera certainement un jour dans un épisode sur les super-héros, ils vont quand même réussir à nous pourrir toute la storyline de Phoenix puis Dark Phoenix, deux fois ils l'ont raté en film. Faut quand même le faire. Mais bon, jusqu'à présent, là, quand c'est Singer, ça va encore.
Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre, comme tu l'as dit, un acteur qui n'était pas très connu, qui est Hugh Jackman, qui va carrément crever l'écran dans X-Men, et qui va être au centre du deuxième film.
Voilà.
Et dans le premier, le personnage de Wolverine, qui était quand même un des super-héros les plus compliqués à faire, parce qu'il n'a pas des super-pouvoirs très impressionnants, il a ses griffes, bon, ok, il est indestructible, mais c'était pas évident d'en faire quelque chose de charismatique, et de ce point de vue-là, ça va bien fonctionner.
Clair que c'est la grande réussite du film.
C'est la réussite du film, et d'ailleurs, on va écouter un morceau consacré à Logan.
Alors, on va écouter un morceau consacré à la relation entre Logan et Rogue, qui en français s'appelle Malicia, la fille interprétée par Anna Paquin, qui a le pouvoir d'absorber la force vitale des autres, ou le pouvoir quand c'est un super-héros. Et je pense que c'est l'élément qui reste de la première approche de Michael Kamen avant qu'on lui demande de revoir sa copie, parce que c'est extrêmement, je sais pas comment dire, parce que c'est pas romantique, c'est pas une romance, c'est pas de l'amour, c'est une amitié très forte en fait.
C'est une sorte de relation père-fille, parce que Logan est plus âgé,
un petit peu,
a une espèce de côté mentor par rapport à Malicia.
Un petit peu, c'est vrai qu'il la protège, qu'il s'occupe d'elle, etc. Et Kamen a mis cette relation en musique de manière extrêmement délicate, extrêmement travaillée et très très douce et très très belle pour un morceau qui s'appelle, je crois, Logan and Rogue.
C'est ça, Logan and Rogue.
Et je pense que on aurait eu quelque chose plus dans ce ton-là si on l'avait laissé faire ce qu'il avait en tête au départ quand il a vu le film.
C'est parti. C'est vrai que c'est très joli et c'est vrai qu'on retrouve les intonations, les tonalités, les orchestrations chères à Michael Kamen. Hein. On retrouve son style.
Oui, tout en n'étant pas véritablement un thème romantique. C'est ça qui est intéressant. Non, c'est qu'il arrive
un peu à la Dead Zone, je trouve.
Ouais, il arrive à créer la distinction musicalement de ce qui est à l'écran entre les personnages, en fait, qui n'est pas une alchimie physique, en fait.
C'est très 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 bien. Bon, il y en a marre du cinéma, les enfants, je me casse. Je me casse à la télévision, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, quand c'est Spielberg qui t'appelle, tu dis oui.
C'est ça.
Juste, tu te tais, tu prends tes affaires et tu y vas.
Et tu fais le taf. Alors, le taf, il l'avait déjà fait sur sa collaboration avec Tom Hanks et Ron Howard sur De la Terre à la Lune.
Exactement.
Voilà. On en a parlé. Et voilà que se représente une mini-série à nouveau. Cette fois-là, dans la traînée d'un film à succès qui a été Le Soldat Ryan.
Ah, dans la traînée, parce que le projet Band of Brothers était déjà en route avant que Le Soldat Ryan soit tourné.
Ah, bah, je le savais pas.
Mais l'idée, c'était qu'effectivement, la préparation, la construction des décors, enfin, en gros, tout ce qui va être développé sur Le Soldat Ryan va également servir sur
à la production de Band of Brothers.
Tout à fait.
Donc, série qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale,
voilà.
Qui va suivre un groupe
de militaires. Alors,
qui s'appelle la Easy Company.
La Easy Company, tout à fait. Qui est en fait une partie du 2e bataillon des parachutistes armées américaines mêlée à la division de la 101e Airborne. Ce qui, moi, m'avait fait plaisir, en fait, à l'époque, puisque donc en 93, j'avais été engagé par l'ami Philor, a bossé sur un CD-ROM consacré au débarquement de Normandie. Et donc, pendant un an, j'ai dû plonger dans les livres d'histoire, les archives, les photos, etc. À la fois, bien sûr, sur le débarquement de Normandie, mais aussi sur une partie de la campagne de Normandie, voire encore plus loin. Et je passais mon temps à halluciner, parce que, quelle que soit la grosse bataille sur laquelle je m'arrêtais, je tombais toujours sur les mêmes mecs, en fait. Et donc, cette fameuse 101e Airborne, elle était absolument partout. Qu'il s'agisse donc de la fameuse bataille de Bastogne, qui a donné lieu à un film de William Wellman, d'ailleurs, qui est absolument magnifique. Quand je m'intéresse au nid d'aigle d'Hitler,
il y était aussi, tout à fait.
À un moment donné, en tant que cinéphile, quoi, je me dis, mais c'est fou. Personne n'a eu l'idée de faire un film entièrement consacré à cette compagnie-là. Quand même, les mecs, ils ont vécu tous les grands événements de cette conquête de l'Europe. Et donc, Band of Brothers, finalement, c'est la concrétisation de ce truc. Il fallait bien qu'un jour, quelqu'un se rende compte qu'on avait un groupe d'hommes qui se sont vraiment bouffés toutes les saloperies, toutes les mauvaises surprises de cette difficile avancée en Europe.
Donc, encore une production HBO comme De la Terre à la Lune.
Oui.
Encore Tom Hanks avec Spielberg à la production. D'après un livre de l'historien Stephen Ambrose. Donc là, on a tous les éléments pour faire une grande saga.
Exactement.
Il manquait que la musique.
Ben voilà.
Et je propose qu'avant d'aller plus loin, on écoute le générique de cette série qui est assez magnifique et qui, pour le coup, est du pur Michael Kamen. Vous qui avez écouté tous les épisodes avant, vous allez vous retrouver en terrain connu.
C'est parti.
Thank you.
C'est très très beau.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Amon a composé un morceau pour le générique de cette série qui est, comme je disais, du pur Amon. C'est tout à fait son style, c'est tout à fait ses harmonies, tout ça. Mais c'est aussi parfaitement en phase avec ce qu'a fait John Williams sur Le Soldat Ryan de Spielberg, qui est un film où il y a assez peu de musique d'ailleurs, mais où il y a un grand thème qui est très émotionnel sur la fin du film. Et il y a une vraie parenté entre les deux. Donc c'est marrant d'avoir réussi à faire ça tout en gardant sa propre identité à côté. Il était quand même fort, le bougre.
Sachant que le projet Band of Brothers est aussi l'idée d'utiliser les entretiens qui ont été filmés avec les vétérans de cette Seconde Guerre mondiale et qui avaient servi Spielberg sur Le Soldat Ryan. Sauf que là, on les voit, ces vétérans. Ils sont à l'image. On regarde l'épisode, on est dans une fiction d'une certaine façon et à un moment donné, boum, on a l'intervention d'un vétéran.
Je sais plus si c'est au début ou à la fin des épisodes, mais à chaque fois où il y a des vétérans, et d'ailleurs certains seront... invité à la première de la série.
Tout à fait.
Qui a été un truc à grande pompe.
Exactement. C'est vrai qu'à l'époque où c'est développé, c'est le plus gros budget jamais alloué à une série télévisée avec une moyenne de 10 à 12 millions par épisode.
Voilà, donc pour un total de 125 millions, c'est quand même pas mal.
Un gros budget. Ça va être explosé avec les Game of Thrones et compagnie. Et comme souvent sur ces séries télé à prestige, c'est l'occasion pour des cinéphiles comme nous de retrouver de la trace de réalisateurs qu'on a perdu de vue. Parce
qu'il faut
voir quand même les noms qu'il y a au générique. À chaque fois, on se dit « Ah, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il était devenu Phil Aldeld Robinson ?» On le voyait régulièrement dans les films de cinéma et puis il a disparu. David Leland aussi, qui avait eu quelques succès dans les années 80. Le chef-op Michael Salomon, qui avait réalisé quelques films pour Disney, pareil, qui avait disparu, etc. Et on a aussi pas mal d'épisodes réalisés par David Nutter, qui sera un des principaux réalisateurs de la saga des Game of Thrones, justement. C'est du solide, c'est des gens qui savent utiliser une grosse infrastructure, qui savent utiliser beaucoup de figurations, qui savent utiliser les effets spéciaux, parce que c'est quand même, voilà, il faut le rappeler, c'est une série spectaculaire, hein, Band of Brothers.
Oui.
En plus d'être, je trouve, plutôt bien écrite et surtout vachement bien dirigée. Comme c'est des personnages qu'on va être amené à suivre sur toute la longueur.
Ouais, sur 10 épisodes.
Sur des épisodes, on s'attache vraiment.
Et d'ailleurs, on a des acteurs qui sont pas des grandes stars, mais qui sont des gueules qu'on voyait déjà fréquemment à l'époque dans des seconds rôles et qui constituent un ensemble choral tout à fait convaincant dans la série.
Contrairement à De la Terre à la Lune, qui étaient des épisodes un peu disparates, puisque chacun racontait un moment important de la conquête de la Lune, avec pas forcément du tout des personnages récurrents, à part de trois importants à la NASA qu'on voit régulièrement. Là, Band of Brothers, c'est une série à suite. Ça, c'est une histoire complète.
C'est dans l'ordre chronologique.
Alors que La Terre à la Lune, on peut regarder les épisodes de manière un peu indépendante, c'est possible.
Tout à fait, non, c'est dans l'ordre chronologique, depuis les premiers entraînements jusqu'à, je crois, la prise du Nid d'Aigle, qui doit être le dernier épisode.
Tout à fait, en fait.
Avec un passage, évidemment, en Belgique, etc. Le débarquement en Normandie.
Le premier épisode se passe entièrement en Angleterre, donc c'est effectivement tout l'entraînement. Le deuxième épisode, c'est le débarquement en Normandie. Et ensuite, on va avoir la bataille de Normandie, on va avoir la bataille de 40 ans, qui a été une grosse bataille. J'ai parlé de Bastogne tout à l'heure, où ils sont pris au piège par les troupes allemandes en pleine neige, et qui a donc donné lieu à un film. Mais là, on a un épisode entier dessus. Et effectivement, ça se termine sur le Nid d'Aigle. Et ensuite, il y a un épisode entier avec les vétérans qui reviennent sur tout le parcours. Quoi.
Voilà, sachant que c'était un peu le focus de Spielberg à l'époque après Le Soldat Ryan, et qu'en parallèle il développait aussi une franchise de jeux vidéo qui continue encore aujourd'hui, qui s'appelle Medal of Honor, et qui était aussi une nouvelle approche du jeu vidéo avec un point de vue un peu historique qui marche bien en fait.
Très belles musiques de Giacchino
et les quasi débuts de Giacchino, effectivement.
On va peut-être écouter un deuxième morceau alors, du coup
on peut écouter un deuxième, troisième, quatrième, parce que tout l'album est superbe. Cameron a mis ça en musique comme un film. Alors il y a beaucoup plus de musique, je sais pas s'il a eu de l'aide ou pas, je pense qu'il a dû avoir les assistants qui ont un peu contribué, parce que ça fait quand même beaucoup de musique sur 10 épisodes d'une heure. En tout cas, il a fait le job de manière assez spectaculaire, et on va écouter un deuxième morceau, mais il y a vraiment du choix, l'album est bien construit, avec peu de morceaux, mais des morceaux assez longs, des suites, etc. Et ce second morceau qu'on va écouter s'appelle The Mission Begins, et ça envoie un peu du bois.
Allez, on envoie du bois. We'll be right back. Ça pète bien. Alors Rafik, un dernier mot sur Band of Brothers avant de passer à toute autre chose.
Bah donc je ne saurais que trop recommander la vision de Band of Brothers, sachant qu'en plus il y a un beau coffret Blu-ray, voilà, et que comme c'est vraiment des productions qui ont été faites sérieusement comme des films, bah du coup ça se regarde comme un film. Moi j'ai vu ça sur vidéoprojecteur et ça a de la gueule, quoi. Ça fait plaisir.
Voilà, c'était sorti à l'époque dans un beau coffret en DVD.
C'est ça. Et une fois que vous aurez fait cette expérience, vous serez probablement intrigué et intéressé de la prolonger avec l'autre, c'est gros. Série qui a été faite dans la foulée, Band of Brothers, l'enfer du Pacifique, qui lui raconte évidemment l'autre flanc.
Alors ce qui est intéressant avec Band of Brothers, c'est que vous pouvez aussi en profiter pour le montrer à vos enfants qui sont dans les études de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, pas les enfants de 5 ans, hein, alors, c'est un peu petit.
C'est violent.
Vous n'aurez pas de Michael Kamen sur l'enfer du Pacifique, puisqu'il est donc mort, et que ben, du coup, ils se sont dit il n'y aura pas de musicien sur la série, donc on va faire appel à Hans Zimmer.
Je m'attendais à une saloperie, mais...
Ouais, enfin, Hans Zimmer, il n'a rien fait à part le thème. Hein. C'est Blake Neely et je ne sais plus qui d'autre.
Merci pour ces précisions, messieurs. Passons à un film tout à fait particulier, puisqu'il est réalisé par un monsieur qui s'appelle Kevin Costner, qui joue aussi dans le film.
Et qui va donner à Michael Kamen l'opportunité de faire un truc qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent.
Ben, un western.
Un western.
Avant de commencer à parler de ça, comment ça se fait que Kevin Costner, qui a l'habitude de travailler avec l'excellent James Newton Howard, ne lui a pas demandé?
Alors, pourquoi pas Newton Howard? Je ne sais pas. Peut-être qu'il était pris sur autre chose.
Probablement.
C'est l'époque où il travaillait pour Shyamalan, tout ça.
Et pour Disney.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À cette époque-là, il avait beaucoup de films. Peut-être qu'il était simplement pas dispo. Donc Costner a demandé à Polydoris, et Polydoris a vu le premier montage du film. Il n'a pas aimé l'application de la musique temporaire qui était faite avec ses musiques à lui. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce que lui m'a dit, c'est que Costner avait monté le film sur du Starship Troopers. Franchement, quand je vois le résultat final du film, je me dis, personne ne peut avoir mis Starship Troopers en musique temporaire sur ce projet-là.
Oui, c'est étrange, ce n'est pas du tout un film d'action.
Voilà, en tout cas, le fait est que Polydoris a finalement refusé de faire le film, et du coup, Costner est allé... chercher Michael Kamen.
Il aurait pu aller chercher Hans Zimmer.
Il aurait pu faire un choix pire, clairement. Mais il n'était pas du tout question de faire des mauvais choix pour ce film-là. C'était un projet qui tenait beaucoup à cœur à Costner. Et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'adore le film.
Ah, moi, j'aime bien le film.
Je le trouve absolument superbe de A à Z.
C'est un des derniers grands westerns. Enfin, sur le 21e siècle, on n'a pas eu beaucoup de vrais beaux westerns. Celui-ci en fait clairement partie et très très haut, oui.
C'est surtout que c'est une approche extrêmement rare du western. C'est pas le western à la papa avec les cow-boys, les indiens, les vilains, etc. Mais il y a des gens pas gentils dans le film. Hein. Mais c'est une approche assez contemplative de ce qu'était la vie des gens qui traversaient comme ça la plaine avec leurs troupeaux. C'est pas en soi un film d'action. À un moment, il y a de l'action et l'action, elle se déchaîne carrément bien velue pour le coup. Mais avant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir.
En fait, on n'est pas très loin presque. Je dirais du thriller, voire du film de gangster. Ne serait-ce que dans cette idée d'un personnage qui essaie de fuir la violence dont il s'est rendu coupable, en fait, durant la guerre, et qui essaie de mener une vie normale.
Pour lequel on pense qu'il a réussi pendant un temps, puisque tout le début est super naturaliste.
C'est ça. Et en fait, en gros, le mal se rappelle à lui, quoi. La nécessité de la violence se rappelle à lui.
Ça m'arrive régulièrement aussi, la nécessité de la violence.
Voilà, David est le cousin éloigné de John Wick.
C'est ça. Bah, surtout quand je suis en voiture à Paris. Mais bon, c'est une autre histoire.
Voilà. Et puis Costner, il a aussi fait passer le film avant tout le reste, y compris avant sa célébrité à lui, puisque le rôle le plus important du film, finalement, c'est pas lui. C'est d'abord l'autre acteur sur lequel il avait construit tout le film et pour lequel il avait écrit le script initialement. Il avait cet acteur-là en tête, c'était Robert Duvall, qui est absolument magistral dans le personnage. C'est un des derniers grands rôles de Robert Duvall et il est vraiment, vraiment hallucinant. Quoi. Voilà, on a aussi Michael Gambon qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui fait un méchant tout à fait convaincant.
Ils sont tous exceptionnels, je trouve.
Annette Bening, pas maquillée, qui est tellement plus jolie comme ça.
C'est clair. On peut rappeler vaguement l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, c'est des cow-boys qui transportent leurs troupeaux et qui fonctionnent selon un ancien code d'honneur, en fait, hein, de ne pas se marcher sur les pieds, etc. Qui, en fait, en traversant une ville, on va dire, qui est tenue par des gens plus ou moins corrompus, ça va créer une situation de confrontation.
Voilà, des gens qui sont prêts à tuer pour récupérer le troupeau.
C'est ça.
Qui n'appartient plus à personne s'ils sont morts.
Et ce qui va réveiller, chez le personnage de joué par Kevin Costner, justement, des actes de violence qu'il pensait avoir laissé derrière lui, bien derrière lui.
Voilà, et donc il n'y a quasiment pas d'action, dans le sens action violente, etc., pendant les deux tiers du film.
Ouais, mais quand il y en a, il y en a.
Et quand ça démarre, putain, mais ça s'arrête plus.
C'est clair.
C'est évidemment superbement vraiment réalisé, parce que Costner, il n'en est pas à son premier film, ce sera malheureusement son dernier, alors que le film a été quand même un succès relatif.
Relatif, mais pas suffisant, effectivement, pour le réinstaller. Évidemment, il a fait ça sur les restes très lointains, de plus en plus lointains, du succès surprise qu'avait été Danser avec les loups. C'est d'ailleurs que le chef-op du film est un mec qui avait débuté justement sur ce film-là.
Oui, mais ça, là, c'est son premier film en tant que chef-op, je crois.
Oui, justement, mais il avait démarré sur Danser avec les loups.
Et pour un premier film, la photo est absolument sublime. Ouais. C'est vraiment, c'est pour le coup beau comme un western des années 60.
Et aussi sérieux que soit le film, parce qu'il y a vraiment tout un aspect très dramatique, très adulte, c'est plaisant de voir à quel point c'est encore un gamin dans l'âme, à quel point il aime ce qu'il fait. Et si vous en avez eu l'occasion, je vous invite à regarder le making-of, parce qu'il y a une scène hilarante, je trouve. C'est Annette Bening qui vient d'être engagée, qui donc du coup vient à sa première rencontre avec Kevin Costner, et lui en train de bosser sur le décor du film. Il a fait construire une maquette de la ville où va se dérouler une grande partie de l'action, et la maquette est au sol, et Annette Bening, elle est assise sur une chaise, et Costner, il est par terre, et il lui explique en fait ce que vont être les scènes, sauf qu'il se prend au jeu. Et à un moment donné, il est en train de jouer au cow-boy aux Indiens. Il est en train de faire. Et là, il y a lui qui arrive, il fait etc. Et tu vois Annette Bening qui le regarde vraiment comme une maman regarderait un petit garçon de 6 ans en train de jouer.
C'est lui qui réalise le film.
C'est ça. Et tu dis, c'est magnifique le cinéma, c'est magnifique les enfants.
Mais moi, j'ai beaucoup d'amour pour Costner, le cinéaste, qui a toujours fait des films qui lui tenaient à cœur, qui n'a pas eu toujours beaucoup de chance avec le box-office, à part avec Danse avec les loups, mais qui a toujours été intègre vis-à-vis de ce qu'il avait en tête.
Ouais, Postman, c'est un peu chiant. Ouais.
Moi, j'adore Postman, tais-toi. Chiant. David, il comprend pas le cinéma.
Non, c'est pas grave. Au même moment, sortait Independence Day.
Voilà, il y en avait pour tout le monde. Et j'aime beaucoup Postman, j'adore le score de Postman.
Moi, je suis responsable de 20% des entrées de Postman, hein, facile. Je l'ai vu plusieurs fois en salle. Ouais.
Je me souvenais pas que t'aimais Postman, parce que je me sens seul toujours à défendre ce film.
Mais
en fait, t'es là.
Pour te dire à quel point j'aime Postman, je suis prêt à écouter la musique de James Newton Howard.
Oh, elle est superbe. C'est une des plus belles qu'il ait composées.
À quel point le film m'a convaincu.
Effectivement. Et d'ailleurs, Postman est aussi un western déguisé en film de SF.
Totalement. Ça a de SF que le genre dans lequel ils l'ont classé, parce qu'il n'y a rien.
C'est quand même un post-apo.
Oui, mais enfin, c'est un western post-apo, voilà.
Et ce qu'il y a de bien avec Open Range, ce qu'il y a de bien avec ces westerns réussis, ces quelques westerns réussis que le 21e siècle nous a offert, c'est que ça nous permet d'écouter de la musique de western. On avait eu le 3h10 pour Yuma qui nous avait offert une magnifique partition de
Marco Beltrami.
Et là, sur Open Range.
Magnifique partition de Michael Kamen, qui est souvent assez retenue de par toute la première partie du film, qui est assez contemplative et assez posée, qui va se déchaîner un petit peu quand même dans la dernière partie. Mais il n'y a pas tant de musique que ça sur les séquences d'action, en fait. Parce que l'action parle d'elle-même, il n'y a pas énormément de score. Donc là, ce qu'on va écouter, c'est tout simplement le thème d'Open Range, qui s'appelle de manière assez peu originale Open Range.
Donc on écoute Open Range
de Michael Kamen.
Open Range.
Pour le film Open Range de Kevin Costner.
Thank you.
Bon, bah moi je dirais qu'avec Open Range, c'était open bar pour Kevin Costner et pour Michael Kamen. Bon, tu as le droit de couper ça.
Je suis pas sûr. Je peux peut-être te laisser t'écraser en flamme de temps en temps.
Tu as raison. Alors, passons à un des derniers projets musicaux de Michael Kamen. Donc, le film dont on va parler là est un film que je n'ai pas vu qui s'appelle Back to Gaia, le monde fabuleux de Gaia. Et je ne l'ai pas vu, je ne sais même pas de quoi ça parle.
Je ne l'ai pas vu non plus, c'est un film d'animation.
Aussi connu sous le titre Boo, Zino and the Snurks.
Ouais, c'est le titre, titre américain ça.
C'est quoi ce...
C'est un film d'animation allemand qui a l'air moche comme un cul et sur lequel Kamen était embauché parmi d'autres projets puisqu'il en avait toujours plein en même temps. Les deux autres films qu'il fera à la même époque ou qui commencera à la même époque ne sont jamais sortis en 10, donc on les a pas intégrés dans la sélection. C'était Against the Ropes,
Dans les cordes et Des étoiles plein les yeux, First Daughter de Forest Whitaker.
C'est ça, voilà. Pourquoi on a mis Back to Gaia? Parce que c'est le dernier score officiellement de Michael Kamen puisqu'il travaillait dessus au moment où il nous a quittés. On savait déjà depuis quelques mois via une déclaration qu'il avait faite sur internet qu'il était atteint de sclérose en plaques. On n'avait pas évidemment idée que ça allait se terminer aussi tragiquement
et aussi rapidement. Oui, parce que la sclérose en plaques est une maladie très très grave. Mais
oui,
généralement,
mais il y a plein de versions différentes.
Oui, et elle se développe, généralement, elle met du temps.
Elle met du temps, et on peut vivre avec pendant des années, on peut avoir des rémissions, enfin bref, Kamen, il n'a pas eu de rémission, et il a peut-être attendu des années avant de le rendre au public, ça c'est possible, mais en tout cas, il est mort, et c'était super triste. Tout le monde était super triste, parce que la communauté béophile avait une admiration sans borne pour lui, et il ne l'avait pas volé, donc...
Et moi, je me souviens que c'était un choc, parce que j'adorais Michael Kamen, mais je pense que pour Rafik, c'était pareil, d'apprendre sa disparition aussi soudaine alors que ce gars-là nous avait gratifié de tout ce qu'on a écouté depuis cet épisode.
À 55 ans, c'est-à-dire qu'il est mort plus jeune que je ne suis aujourd'hui.
Exactement.
Non, c'était d'autant plus choquant que c'est un des rares compositeurs que j'avais pu rencontrer hors promotion. Il nous avait laissé une vive impression hein, quand il était passé en France.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu la chance, Rafik et moi, de le rencontrer et c'est quelqu'un qui laisse une impression particulièrement durable qui était exactement comme l'idée qu'on s'en faisait avant de le rencontrer en lisant les interviews, en le voyant dans des vidéos, etc. C'est un mec tout le temps à fond, tout le temps enthousiaste, tout le temps passionné, tout le temps envie de faire de la musique, de travailler avec des gens, d'être vivant. Il a été tellement vivant qu'il a vécu 5 vies en 55 ans. Donc déjà, c'est pas mal, hein.
Oui, et puis il nous laisse énormément de scores marquants, incroyables, et qu'on continuera à écouter très très longtemps, à mon avis. Mais ce qui est triste avec sa disparition, c'est que Michael Kamen, c'était aussi un style tout à fait particulier et qu'on retrouvera plus. Ça, c'est clair.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai un ami que vous connaissez certainement parce qu'il fait aussi des épisodes pour Total Tracks parfois, qui s'appelle Christophe Magnès, qui m'avait suggéré, quand je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, de parler du style de composition de Michael Kamen parce qu'il a des techniques, des choses récurrentes qui sont
des accords bien particuliers.
Importantes. Entre autres, une manière de faire traîner une note sur la mesure suivante parce que ça crée une dissonance, etc. Je ne suis pas assez technique pour rentrer à ce point-là dans le cœur du sujet de la composition du style de Michael Kamen, mais si Christophe veut le faire un jour, il est le bienvenu.
Donc le monde fabuleux de Gaia, on s'en fout un peu du film parce qu'a priori personne ne l'a vu.
Oui, puis ça a pas l'air bien. Hein.
C'est très, très 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 moche, les quelques extraits qu'on a pu voir, les bandes annonces, etc. Il faut juste savoir que c'est a priori le premier long métrage en image de synthèse produit en Allemagne, donc ils ont peut-être cette excuse-là. Que ça s'est fait aussi parce que deux des scénaristes étaient en fait des gens qui avaient bossé en petite main sur des productions Pixar, et notamment Mille et une pattes, Bug's Life. Donc je vois bien les gars en gros retourner au pays et dire, fort de leur expérience américaine, de se dire on va vous faire un dessin animé sur place et tout. Tout ça n'explique pas la présence de Michael Kamen au générique.
Non, mais on lui a dit on fait un film d'animation en image de synthèse, ce sera le premier en Allemagne, tu veux faire la musique? Oh, ok. Et donc Kamen avait commencé à bosser sur le film, il n'avait pas terminé du tout. Et une équipe menée par son ingé son habituel qui était Steve McLaughlin et son monteur musique habituel qui était Christopher Brooks, donc tous les deux ont piloté une équipe d'orchestrateurs qui elle-même était menée par un compositeur qui s'appelle Blake Neely. Et ils ont fini d'adapter ce que Kamen avait fait pour les différentes scènes qui restaient à mettre en musique dans le film. Et effectivement, ça ressemble à une compilation à la manière de Michael Kamen. Mais même le thème principal, je pense qu'il n'avait pas avancé plus que ça parce que c'est un truc qui ressemble aussi beaucoup d'autres partitions antérieures. Mais on l'a mis parce que c'est quand même le dernier score officiel de Kamen, qu'on a en plus la chance qu'il soit quand même sorti en CD des années après la sortie du film. Donc on va écouter le main title de Back to Gaia.
C'est une bonne idée. C'est les cordes de Robin des Bois. C'est un peu le thème de Band of Brothers. C'est un peu un best-of. Quoi.
C'est un peu un best-of de ce que faisait Cameron. Donc je pense qu'il n'avait pas avancé beaucoup sur la composition pour le film parce qu'il était quand même un petit peu plus original que ça, même s'il y avait souvent des rappels de ses œuvres précédentes dans ce qu'il composait au fil de l'eau. Mais ça reste parfaitement écoutable, hein, très agréable.
Mais comme on n'a pas envie de voir le film parce que ça a l'air très très laid,
mais voilà,
on s'arrêtera au disque.
Alors après, il nous reste une œuvre assez monumentale dans un temps assez réduit, puisque c'est à peine une vingtaine d'années.
Bah oui, on est obligé de conclure, enfin, concluons. Ah bah c'est un peu triste de quitter un si grand compositeur, surtout sur cette note finale.
Il nous a quitté brutalement, on va arrêter brutalement, hein, c'est comme ça.
Ouais, mais c'est moche. Et si vous voulez, un jour, on fera un épisode sur tous les scores pourris de Michael Cameron qu'on n'a pas mis dans ces 7 épisodes. 7 quand même, on s'est un petit peu lâché. Après, c'est rien par rapport à ce qu'on va faire quand on va attaquer Jerry Goldsmith.
C'est 250 épisodes.
Voilà, mais avant de commencer à faire des épisodes sur Jerry Goldsmith, on a un livre à sortir.
Exactement, un livre qui est toujours en vente, donc je vous recommande chaudement d'aller sur Kiss Kiss Bang Bang et de taper Jerry Goldsmith. Vous allez tout de suite tomber sur ce projet fabuleux.
Un orfèvre à Hollywood.
Exactement, un livre de Yves Desrichard avec la participation quand même très émérite de Rafik Djoumi et aussi du professeur Desbrosses qui a quand même jeté un œil, on ne sait jamais, au cas où Yves aurait oublié quelque chose ou fait une petite erreur. Tu veilles au grain, professeur.
Il y a toujours des choses à corriger, toujours.
Ce livre, écoutez, vous pouvez vous l'offrir. Ça nous aide à développer ce type de projet qui nous paraissent être des projets intéressants, connexes au podcast Total Tracks.
Et puis ça vous permet tout simplement d'avoir entre les mains le premier livre français consacré à Jerry Goldsmith.
Et c'est pas mal.
Surtout
que dedans, hein, Rafik, on y retrouve l'intégralité de l'œuvre du maître.
Exactement, on y retrouve l'intégralité de l'œuvre, on y retrouve des analyses, bien sûr, des différentes musiques, mais aussi des remises en contexte, puisque donc cette musique n'existe pas sans les films qu'elle sert.
À côté de ça, il y a un plus petit livre, c'est une discographie visuelle de Jerry Goldsmith, c'est-à-dire que vous allez retrouver à peu près les couvertures de tout ce qui est sorti en disque. Pas toutes les éditions, mais enfin les principales.
En gros, vous aurez chez vous, dans votre bibliothèque, un scan intégral de ma collection Jerry Goldsmith.
C'est ça. Et donc...
Et elle est assez massive.
Elle est massive.
On va même pas pouvoir tout mettre dans le bouquin, en fait.
Sous forme de bouquin, mais c'est pas mal parce que ça permet de se rendre compte, depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, de l'envergure de l'œuvre de Goldsmith. Parce que Williams, c'est le boss, c'est le compositeur phare auquel on fait souvent référence et dont les films sont en tête rapidement.
Emblématique.
Goldsmith, on les connaît moins, mais finalement, quand on y jette un œil un peu plus expert, on se rend compte que c'est incroyable ce qu'il a couvert comme film important.
Et puis beaucoup plus volumineux que la discographie de Williams. Bah oui. Williams, il y avait 2-3 scores par an en moyenne, je pense, sur l'ensemble de sa carrière. Goldsmith, c'est au moins le double.
C'est notre petit projet du moment. Dépêchez-vous parce que ça va bientôt se terminer. Donc, on a besoin de vous pour que le livre se vende bien. On a besoin de vous aussi pour nous encourager à continuer d'en faire d'autres.
Voilà, on a atteint le premier objectif qui était 300 contributeurs pour le livre, ça garantit la sortie du bouquin.
C'est ça. Mais
par contre, si on pouvait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, ça pourrait nous permettre d'avoir des capitaux pour, par exemple, faire un autre concert qui va de très loin enterrer celui qu'on vient de terminer pour Halloween. Mais pour ça, il faut qu'on ait beaucoup, beaucoup plus.
Exactement. Donc voilà, Kiss Kiss Bang Bang, ce site de financement participatif, et vous tapez Jerry Goldsmith. Il y a aussi des t-shirts, il y a plein d'autres trucs à acheter. Sur ce projet graphique, est-ce que tu peux te pencher sur ton ordinateur et regarder ce qui se passe en ce moment même sur la meilleure radio de musique de film du monde, je crois qu'on peut pas faire mieux, et qui s'appelle lagrandeévasion.fr.
Je suis pas sûr d'avoir retenu l'adresse, c'est bien lagrandeévasion.fr.
Tout à fait, c'est tout à fait ça.
La meilleure radio de musique de film au monde, et de toute façon, sur la meilleure radio de musique de film au monde, qu'est-ce qu'on peut entendre d'autre que du Jerry Goldsmith?
Par exemple.
En ce moment, sur lagrandeévasion.fr, on peut écouter le score de Mulan de Jerry Goldsmith, et pas n'importe quel morceau, puisqu'il s'agit du plus beau morceau de l'album, qui est
la transformation de Mulan,
Mulan Decision. Voilà.
Ah oui,
donc la version originelle,
oui,
non refaite pour le film,
pas celle avec des percus et de la musique disco. Oui, elle est magnifique, cette version, et d'ailleurs, je m'étais amusé à la remettre sur les images d'origine et ça marchait tellement bien. Bref, alors on va terminer sur un morceau tout à fait exceptionnel puisque Kamen était connu pour ses thèmes triomphants, donc on a fait appel à lui.
On a fait appel à lui en 2002 pour les Jeux Olympiques d'hiver, pour lequel il a fait une musique qui, quelque part, est parfaitement appropriée pour terminer cet hommage qu'on lui a rendu. Et donc, c'est un morceau assez long qui a été composé pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002 par Michael Kamen et Brian May, guitariste de Queen, avec qui il avait déjà travaillé, entre autres, sur Highlander.
Mais tout à fait.
Et ils ont composé ensemble un morceau qui s'appelle The Fire Within, qui fait appel à un orchestre, à un chœur, à des tas d'instruments, à la guitare de Brian May, à une soprane. Enfin, c'est un truc absolument massif.
C'est un festival.
Dans lequel Kamen a acheté un peu tout ce qu'il avait fait dans sa carrière pour en faire une sorte de maelstrom qui, pour certains, pourrait paraître un petit peu indigeste.
Mais pour moi, c'est un feu d'artifice.
Mais pour moi, je trouve ça absolument magnifique.
Je suis d'accord avec toi.
Sachant qu'il avait à ses côtés un certain John Williams qui avait, lui, fait le thème des Jeux Olympiques de 2002, qui s'appelle Call of the Champions, et c'était son premier thème pour les Jeux Olympiques d'hiver, alors qu'il avait déjà travaillé au moins deux fois sur les Jeux Olympiques en 84 et 88. Donc ça va, en termes de casting de compositeur, c'était bien cette année-là.
Oui, c'était pas mal. Bon, bah on va écouter ça, et puis avant d'écouter ça, évidemment, on va remercier à nouveau nos êtres de lumière, nos contributeurs.
Nos mécènes.
Oui, vous pouvez aussi devenir un être de lumière en allant sur Tipeee ou sur Patreon, et en participant, en donnant des sous.
Et puis comme ça, vous pourrez aller sur Discord et discuter avec nous.
Ah oui, c'est vrai qu'on peut, grâce à ça, on peut aller sur Discord.
Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés pendant ces très longues heures, parce qu'on doit avoir dépassé les 10 heures largement, là.
Ouais, je pense.
Sur Michael Kamen. Mais la musique, je pense, le méritait bien.
Oui, et le personnage aussi.
Voilà, le personnage aussi, clairement. Vous allez avoir, en plus, si votre palier Tipeee ou Patreon vous le permet, à une belle playlist bien chargée de Michael Kamen.
Exact. C'est bien de le rappeler parce que souvent on oublie de le préciser, mais vous bénéficiez effectivement de cette playlist qui vous permet en gros d'écouter tous les morceaux qui n'ont pas été retenus dans nos émissions.
Plus ceux qui l'ont été en général. Mais oui, il y a un paquet. Hein. Je pense qu'il doit bien y avoir 150 titres faciles de Michael Kamen sur La Grande Évasion.
Et sachez que si vous décidez de contribuer, sachez aussi qu'on lit régulièrement vos petits messages que vous nous laissez sur ces plateformes. Parce que souvent ils font du baume au cœur.
Ils nous font toujours très plaisir.
Oui, n'hésitez pas à communiquer avec nous, on n'est pas farouche, on répond et on est content surtout d'entendre qu'il y a des gens qui nous écoutent. Parce que quand on nous écrit, c'est un peu plus concret que de voir simplement des chiffres sur la fréquentation du podcast. Quoi.
J'ai même eu récemment un message vocal, enregistré en vocal, et donc qui nous félicitait tous les trois pour Total Tracks. Merci beaucoup.
J'ai presque envie de lire le dernier commentaire.
Bah, lis-le.
Bonjour Total Tracks, je suis tipeur depuis un moment et je ne vous ai jamais écrit auparavant, je ne sais pour quelle raison, par contre je sais pourquoi je vous écris maintenant. Le podcast sur Michael Kamen. Le choix éditorial de faire écouter une œuvre de ce compositeur m'a fait découvrir ce concerto pour guitare enregistré par OTI. Depuis, je l'écoute au moins une fois par jour. Il s'est passé quelque chose lorsque je l'ai entendu pour la première fois dans le podcast. C'est ça, Total Tracks. Rendre passionnant des compositeurs qui me sont totalement inconnus et me surprendre toujours plus à chaque compositeur que je pensais connaître. On peut être cueilli à chaque instant de l'écoute, c'est vraiment formidable ce que vous faites et c'est surtout important. Vous construisez quelque chose d'unique et de précieux. Continuez et surtout un grand merci pour le travail et l'investissement.
Ça fait plaisir.
Ouais, je suis super ému.
Merci beaucoup, merci mille fois. Et ben, pour la peine, on se retrouve la prochaine fois parce qu'on a encore des choses à dire.
Ah oui, on va enregistrer autre chose après, clairement.
Et on va partir ailleurs, très très loin.
Plein de choses, vous allez voir.
On va partir très loin ailleurs.
Et en attendant, on va vous laisser avec un morceau qui va certainement, je pense, séduire une bonne partie d'entre vous, de Michael Kamen pour les Jeux Olympiques de 2002.
Et c'est le bonheur.
Et c'est le bonheur.
Allez, bisous à tous.
À bientôt.
Salut.
Bisous. Thank you.
that can cover the bombs coming down. A radiation shower will pour throughout your town. Hands over your head,
deep low to the ground.
Time to duck and cover, the bombs are coming down. Duck and cover, duck and cover. Get under the desk with your sister and your brother. Duck and cover, duck and cover. That goes double for your dad and your mother. So hands over your head, keep low to the ground. 'Cause all the kids that don't will cease to be around.